présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. La femme les laisse. Denis lui dit, tu vois, ça se passe très bien. Et il demande, quoi? Eh bien, tu te figues. Tu en... On en a même fait une opérette. Elle lui dit, malgré qu'elle soit inquiète, tu as raison. Alors, buvons du champagne. La soirée, il y a une cinquantaine d'invités. Un orchestre sur une estrade. La fête est très réussie. Jean danse comme une folle et boit beaucoup. Une femme au buffet, cheveux châtains, maigre, en robe du soir rose, lui dit « Vous faites bien d'en profiter, parce qu'après, adieu l'alcool et les fêtes, comme celle-là. » Jean lui demande et pourquoi? Elle lui dit, vous ne savez pas, c'est les musulmans. Non, ne boivent pas d'alcool et les femmes restent chez elles. Jean lui dit, mais je ne suis pas musulmane. Elle lui dit, vous allez le devenir. Jean lui dit, j'ai pas du tout envie de le devenir. On le devient tout de même. Elle s'éloigne. Jean se dit qu'elle doit être complètement folle. Il ne s'inquiète pas de ce qu'elle a dit et danse comme une folle. Elle danse avec son mari, avec des tas d'hommes. des tas d'hommes qui la trouvent très belle. À 14h du matin, la soirée se termine. Les invités s'en retournent à leur bateau et les bateaux s'éloignent. John a passé une belle soirée. Puis les jours passent et le voyage continue. John, un soir, alors qu'il regarde le coucher de soleil, lui demande « Comment allons-nous vivre ?» Lui demande « Que veux-tu dire ?» Elle lui dit « Oui, il faut de l'argent pour vivre. Et tu n'es plus ambassadeur. » Il lui dit « Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai une fortune personnelle et je suis un grand chef ici. » Après un long voyage, un matin, il lui dit « Nous sommes arrivés chez moi. Nous allons accoster. » Et tout excité, enfin la terre. Le bateau s'approche d'un petit port africain, presque un port de pêche. On voit quelques noirs. Des maisons basses, blanches. Et du sable, beaucoup de sable. Un arbre de temps en temps. Le port est plein de noirs en guenilles, maigres, très maigres, nu-pieds. Des mouches, des centaines de mouches cherchent à s'attaquer à leur visage. Ils accostent. Elle ne dit rien, elle se dit que peut-être ils vont habiter plus loin, dans un oasis. Sans doute. Ils ont descendu du bateau, pour sortir du bateau en quatre quarts. Les enfants, les hommes du pont entourent Jean, qui se sent gêné. Denis lui dit, ne t'occupe pas d'eux. Ne t'occupe pas d'eux. Une fois que le camp-car est prêt, les bagages dedans, le porte-bagages et le chauffeur à sa place, ils entrent dans la voiture. Il fait chaud, étouffant. Le soleil fait mal aux yeux. John regrette le bateau. Thank you. La voiture quitte le port sur une route. Enfin, ce qui a été une route et qui n'est plus qu'une route de piste, d'un chemin dont longe des baraques en ruine, maisons d'un étage. Les gens que l'on voit sont squelettiques. Un peu plus loin, ce n'est plus des maisons, mais un immense bidonville fait de carton d'emballage, de tôle, c'est sol. Les gens n'ont plus rien d'humain. Près des kilomètres de bidonville, il y a une grande bâtisse blanche avec une tour. Denis lui dit, c'est la mosquée. Ici, les gens sont tous musulmans. Et il demande, quelle misère, il n'y a que du sable. Et ces gens, il lui dit, ne te fais pas de soucis. Tu seras bien. Et eux, ils ont l'habitude. Après des générations, c'est leur façon de vivre. Elle lui dit, c'est impossible, ils doivent vouloir une autre vie. Il lui dit, laquelle? Et puis ils n'ont qu'une solution pour s'en sortir. Il faut qu'ils prennent les armes. Et la plupart de ces idiots ne veulent pas s'enrôler dans l'armée de Dieu. Elle lui dit, ils ont peut-être raison de ne pas être des machines à tuer. Après une longue route dans la brousse, ils arrivent à un oasis où se trouve un mur tout blanc qui protège une propriété. L'oasis est très verdoyant, avec des fleurs géantes multicolores, un lac. Elle lui dit, mais c'est merveilleux. Il lui dit, je suis heureux que ça te plaise parce que c'est chez nous, ma chérie. Elle est enchantée de voir un coin de paradis pour ses vacances. La voiture rentre dans la propriété. Ce sont des hommes habillés de blanc, armés, qui ont ouvert la porte à deux battants. Ils entrent dans la propriété. C'est encore plus verdoyant que l'oasis, si l'on peut dire comme ça, parce que ça se trouve dans l'oasis. Suivent une allée qui les mène jusqu'à la maison du maître, qui est une grande bâtisse toute blanche de deux étages avec des coursives. Les coursives ont des colonnes en ogive. L'intérieur de la coursive, les murs et les sols sont carrelés de carreaux noirs et blancs. Les fenêtres sont petites et sont très hautes. On entre dans la maison par un perron carrelé. Au rez-de-chaussée, il y a une cuisine La maison, à l'intérieur, est décorée façon, disons, pour faire simple, arabe. Jean dit, mais c'est merveilleux. Il lui dit, je vais te faire visiter. En face de la porte d'entrée, il y a une autre porte qui donne à une cour intérieure qui est un jardin avec une fontaine. Puis, il lui montre la maison. Les domestiques, des noirs stylés, et puis les cuisiniers et les gardes. Il y a des gardes armés. Elle lui demande, pourquoi avons-nous tant de gardes armés? Il lui dit, parce que je suis un homme important dans ce pays et je dois me protéger. Il lui montre les salons. Salle à manger, il demande, et les chambres? Il monte sa chambre à lui, qui est très vaste, balcon très grand, et lui dit, notre chambre est royale? Il lui dit, non, viens. Et il l'amène à une autre chambre. Ouvre une porte, entre, elle entre. Elle est accueillie par une multitude de femmes qui lui tournent après. Ouvre une porte, entre, elle entre. Elle est accueillie par une multitude de femmes qui lui courent après. Il lui dit, tu es chez toi? Il fait, chez moi? Oui, maman va t'expliquer. Allez, je te laisse. Et il s'en va par une autre porte en fermant la porte à clé. Une grosse négresse, grande, habillée de tulle blanc est près d'elle. Elle dit, viens ma belle, je vais te changer. Ici, il va falloir te changer. Jean de surprise fait, quoi? La femme lui dit, tu peux pas rester comme ça. Tu es la troisième femme de notre maître. Et je vais te donner une belle chambre, celle qui, il y a longtemps, a eu la naisse du pape. Varie mamie. Jeanne ne comprend plus rien. Elle ne sait plus où elle en est. Elle se laisse mener dans une pièce. Des femmes la dévêtent. La nettoie. Le rase les poils du bas-ventre et l'habit de tulle. Nana lui dit, tu es très jolie maintenant, je vais te mettre à ta chambre. Jean demande, mais qu'est-ce que c'est ici? Un harem, ma belle. Ton maître viendra te chercher une fois par mois pour te mettre dans sa couche. Et demande, mais qui est demi, je ne vois? Nana lui dit, un saint homme. Un grand chef prodigieux. Ici, c'est Ben Ali le Grand.
il est très riche et chef d'une armée contre les infidèles. Jeanne est furieuse. Elle lui dit, je veux lui parler. Anna lui dit, pas avant qu'il vienne te chercher. Mais tu peux pas le voir. C'est interdit de voir les hommes. Et Nana sort de sa chambre. Jeanne reste seule.
Jeanne boude. Elle ne sort pas de sa chambre. Puis les jours passent d'ennui. Et elle accepte les conseils de Nana d'aller près des autres. Elle y va. Elles se réunissent près d'une piscine. Une belle et grande piscine. Lorsque Jeanne arrive, c'est la révolution. Une belle grande blonde, toute seule. Elles veulent toutes la toucher, l'embrasser. Jeanne est fière. Elle se sent le centre du monde. Ça lui remonte le moral et ça l'amuse d'être dans une communauté de femmes. C'est drôle. Et puis on peut dire des choses sur les hommes et on peut parler tranquillement de ses malheurs. Les femmes lui posent des questions sur sa vie en France. Elle veut tout savoir. Comment les femmes se comportent avec les hommes en France. Et la tendance de la mode. Jeanne doit expliquer comment les femmes se comportent. Et Jeanne est toute heureuse. Elle fait des petites scènes, ce qui fait rire les autres femmes, pour leur expliquer comment elles se comportent, les Françaises. Tout le monde rit. Elle leur explique les habitudes de son pays. Le temps passe vite au milieu de femmes. L'on rit, l'on danse, l'on chante, l'on parle, tissu, chiffon, etc., etc. Jeanne se sent mieux et se dit que ma foi, ce n'est pas si mal. Lorsque Nana va la voir pour lui dire qu'elle doit retrouver son mari dans sa chambre et qu'il faut qu'elle se prépare, elle n'a pas tellement envie. Elle est occupée à autre chose que les hommes. Elle est obligée de se préparer. Puis, Nana l'amène chez son maître, habillé, parfumé. Elles suivent un long couloir. Et la fait entrer dans la chambre. Il est déjà là, habillé en arabe. En le voyant, sa colère reprend le dessus. Elle lui demande, pourquoi
m'as-tu rien dit ? Ce qui m'attendait ? Il lui dit, tu aurais refusé. Tu t'aurais imaginé des tas de choses. Comme cela, tu peux me voir par toi-même. Cela est si terrible de vivre de cette façon. Elle lui dit, je ne sais pas. Il lui dit, je sais que tu ris comme une folle au milieu de tes compagnes. Vous les occidentaux, vous ne cherchez pas à comprendre. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Allez, viens, viens. Il veut l'emmener près du lit. Elle l'en empêche et lui dit, je n'ai pas envie. Pourquoi m'as-tu pas dit que tu étais musulman et un chef de guerre? Il lui dit, parce que là aussi, tu aurais refusé. Et tu m'aurais pris pour un violent sanguinaire. Comme cela, tu vois bien que j'en suis pas un. Allez, viens. J'ai envie de toi. Malgré tout, ce que tu as appris, je n'ai pas changé. Elle lui dit, peut-être bien, mais je ne suis pas ta seule femme. Il lui dit, aucune femme n'est la seule femme pour un homme, et aucun homme est le seul homme pour une femme. Mais chez nous, on légitime les choses au lieu de les cacher. Nous sommes plus civilisés que vous. Allez, viens. Il est toujours aussi beau, séduisant, et est le seul homme qu'elle désire. C'est un vrai homme. Alors, elle se laisse mener par lui. Pendant ce temps, la France apprend, grâce au centre Franc-Blanc, à Interpol et à la CIA, que l'ancien ambassadeur est en réalité un intégriste musulman et qui se fait appeler Ben Ali le Grand. Il a pris la religion musulmane au cours d'un voyage au Pakistan. Les Français, surtout le gouvernement, sont furieux. Les Américains disent que l'ambassadeur de France était un intégriste, que c'est normal, que cela n'est pas étonnant étant donné que la France est musulmane. La France proteste et dit que ce n'est qu'une infime partie qui est musulmane. Rome proteste aussi et dit que c'est qu'une infime partie, lui aussi, les musulmans dans le monde sont intégristes, les autres sont humanistes. Les Américains disent, c'est à voir. Le pauvre mari de Jean est effondré. Sa femme a été enlevée et séquestrée par un intégriste musulman. Il dit qu'il faut sortir sa femme, qui est une chrétienne. Et de plus en plus dans le monde, l'on dit que la France, si elle ne fait rien pour sauver cette femme de ces criminels, c'est qu'elle est du côté des intégristes. Marc, le président de la République française, est dans son bureau furieux. Il se dit qu'il faut faire quelque chose. prend son téléphone et fait un numéro. C'est une ligne directe pour éviter de passer par les secrétariats. Allô ? Bonjour Maurice. C'est moi, Marc. Vous allez bien ? Oui, moi aussi, enfin, bon. J'ai un petit ennui. Est-ce que vous pouvez venir me voir à l'Élysée ? Merci. Et il raccroche. Une heure plus tard, Maurice Tremblant est dans le bureau du président de la République, assis en face de lui. Le président lui dit : Je vous ai fait venir, c'est à cause de cette regrettable histoire. Cette femme qui est partie avec notre ex-ambassadeur, il faut faire quelque chose. Le monde la prend pour une victime des intégristes qui ne faisant pas quelque chose pour la libérer. Ils vont dire que l'on est du côté de ces fous sanguinaires. Il faut que vous m'aidiez à préparer une expédition pour libérer cette femme. Et en plus, cette histoire nous permettra d'avoir un prétexte pour nous enfoncer en Afrique et faire une guerre, prendre des terres et même des nations. Une fois que les terres nous appartiennent, l'on prépare notre plan de reconstruction. Villefranc-Blanc, usine, etc. Mais je me dis que cette femme, cette jeune Jeanne Neff, est peu crédible comme victime. On veut vite apprendre que ce n'est qu'une, disons la vérité, une pute de luxe. On risquera d'être la risée du monde. Et l'on va dire que les intégristes ont bien raison de prendre nos femmes lorsqu'elles sont des putes. Je vois la chose. Alors j'ai pensé, c'est que, en plus de cette femme, on pourrait envoyer une jeune Française bien sous tout rapport, pure, jeune, sage. Et si elle pouvait se faire tuer, ce serait un très bon prétexte, même mieux que pour l'autre. Et puis deux vaut mieux qu'un. La déclaration au monde de notre consternation, humiliation, et que l'on n'est pas des mauviettes, c'est pour ça que l'on décide, c'est de se venger, de se battre. En plus, bien entendu, pour nos usines d'armement, nos machines, ça vont marcher à fond. Alors j'ai pensé qu'ils pourraient embaucher des SDF, et pourquoi pas des prisonniers. Alors, que pensez-vous de mes idées ? On lui dit, c'est une très bonne idée, diabolique, mais très bonne. Je vais m'y atteler. Et pour calmer les esprits, je vais convoquer le mari de cette femme. Il travaille pour nous. Je lui dirai que la France et Tremblant vont tout faire pour la libérer. Marc lui dit, bonne idée. Tremblant a convoqué à son bureau Neff. Il lui a dit que l'on allait tout faire pour libérer sa pauvre femme. Puis, il a une idée. Il demande à Beaulieu de venir le voir à son bureau pour affaire. Il se dit, orgueilleux comme il est, il acceptera sûrement. Beaulieu tout excité que la Franc-Blanc l'ait convoqué, une demi-heure plus tard, dans le bureau de Franc-Blanc. Blanc lui demande, « Alors Beaulieu, comment allez-vous ? » ?»«
Très bien, monsieur le président. »
Franc-Blanc lui dit, « Ne dites pas président, nous sommes tous les deux chefs d'entreprise et faisons affaire ensemble. On peut se dire Maurice et Henri comme deux vieux amis. »
Beaulieu est flatté, il se dit qu'il y est arrivé et entre dans la cour des grands.
Maurice lui dit, vous voyez, nous allons travailler pour le marché du siècle. Voulez-vous ?
Oui, monsieur.
Maurice lui dit, la France prépare une guerre en Afrique. Enfin, en prévision, une guerre en Afrique. Mais une vraie guerre, sérieuse, avec l'aval de l'ONU et les États-Unis. Vous voyez ?
Il lui dit, oui, il n'ose plus dire, monsieur le président. Monsieur, pour nous, nous allons continuer à dire monsieur Franc-Blanc, parce qu'il ne nous a pas permis de l'appeler par son petit nom. Et pourtant, nous sommes aussi intimes. Donc, monsieur Franc-Blanc lui dit,
il va falloir beaucoup d'armes, de munitions et tout, quoi. Nous allons être riches maintenant. Que le président nous a permis pour nos usines, c'est de prendre des SDF et des prisonniers à moindre frais. Une gamelle de soupe, avec un peu de lard tout de même. Nous ne sommes pas des sauvages. Donc, voilà. Mais pour faire la guerre, il faut un prétexte. Et oui, les peuples, c'est comme ça. Ça ne s'est pas marché autrement. C'est comme les fourmis. Il y a bien cette jeune nef à libérer, mais le président trouve qu'elle n'est pas très crédible en victime. En gros, c'est une pute. Alors, faire la guerre pour une pute, nous ne sommes plus du temps de la belle Hélène. Il nous faut une petite fille en plus d'elle, une jeune fille pure, etc. Remarquez, ça en vaut la peine de sacrifier, si l'on peut dire, deux femmes pour avoir tout un continent à prendre. Alors, j'ai pensé à vous, vous qui êtes prêts à tout pour nous aider et nous êtes tout dévoués à nous et à la France. Vous lui dites, oui, je suis prêt à tout sacrifier pour mon pays et la Franc-Blanc. C'est bien. C'est ce que j'attendais de vous, mon ami. Je savais que je pouvais vous proposer cette chose délicate. Excusez-moi. Voilà. Ce sera la preuve de votre fidélité, fraternité au groupe des grands. Et que l'on peut compter sur vous. En même temps, montrez au monde qui vous êtes.
Il se tait. Henri lui dit, je vous écoute, monsieur le président.
Franc-Blanc continue. Vous allez envoyer votre fille en Afrique pour faire de l'humanitaire ou autre. Et là-bas, elle sera attaquée. Mais ce sera pour le monde occidental. Elle mourra. Et ce sacrifice est pour le monde occidental. Pour nous, pour nos enfants. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Vous devriez et bien y réfléchir. Vous deviendriez un héros et
Le monde serait sauvé, grâce à vous. Henri est effondré. Il voit qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Eh, il faut aider le monde occidental. Mais grâce à lui, il faut qu'il sacrifie sa fille. Mais comment dire à sa femme ce sacrifice? Alors il dit, oui, Tremblant profite pour lui dire, il serait bien c'est qu'elle soit mariée à un jeune homme, bien de bonne famille, de vieille famille française, et qui peut-être après l'enlèvement il pourrait se partir en Afrique la chercher, parce qu'il ne sait pas qu'elle est morte. Le beau chevalier allant libérer sa princesse accompagnée de photographes, il est en pleurs, etc. Cela serait bien, il ferait pleurer dans les chaumières avec gala, voici. Et même match. Cela nous aiderait. Et on trouverait normal que la France forme une armée pour aller en Afrique. Pour aider le pauvre fiancé en pleurs, retrouver sa bien-aimée. Le peuple serait avec nous, ce serait mieux que de libérer une pute. Non. Alors, que pensez-vous de fiancer votre fille? Hein? Et que vous l'envoyez là-bas? Henri lui dit, oui, il en a marre. Il se demande ce qu'il va encore lui demander. Framban se lève et lui dit, bon, je vais vous laisser préparer tout ça. Nous avons bien du travail. Henri se lève. Framban lui dit, je vais vous raccompagner. Et lui dit, au revoir, cher ami. Il se dit qu'il peut bien l'appeler cher ami parce qu'il a sacrifié sa fille. C'est tout de même quelque chose de sacrifier sa fille. Au revoir, monsieur. Henri rentre chez lui le soir, gêné, et sait comment faire avec sa femme. La retrouve au salon. Elle est en train de dire voici pour se mettre au courant. Elle le voit entrer et lui trouve une mine déconfite. Lui demande, que t'arrive-t-il? Et lui dit, ça va, mais j'étais reçu par Tremblant et en privé dans son bureau. Il lui dit, c'est une bonne nouvelle, non? Il lui dit, oui. Il s'assoit, tout essoufflé. Elle dit, je prendrai bien un petit remontant. Elle va aller le lui chercher au bar en lui disant
tu n'as pas été tout retourné pour ça. » Elle revient avec un verre et une bouteille de cognac, le sert. « Tiens, merci. » Il boit une gorgée. Elle s'assoit en face de lui. Il m'a dit qu'il me ferait le plus gros marché du siècle. Nous allons être en guerre contre l'Afrique.
Elle lui fait.
En voilà une bonne nouvelle.
Il lui dit.
Oui, mais il nous faut faire un sacrifice.
Et il demande. Quoi?
Eh bien, c'est assez compliqué. Ta fille doit être fiancée. Très vite, il y a quelqu'un de très bien, jeune et tout, quoi. Le genre que l'on voit à Voici, tu vois.
Elle lui dit, surprise, oui, et continue, et
après qu'elle est fiancée, il faut qu'elle fasse de l'humanitaire en Afrique.
Elle demande, surprise, pourquoi ?
Il lui dit, c'est pour l'image de marque. On ne peut pas faire autrement. Si on accepte que la petite se fiance et parte pour comme ça, on aura le marché du siècle. Il ne passera pas dessus. Où tu vis ? Avec bison et voiture de sport, ou tu as un parka tout en PVC et une vieille Renault pourrie. T'as compris?
Qu'est-ce que tu en penses?
Il lui dit, on ne peut pas faire autrement. Mais le plus dur, c'est de trouver un fiancé. Et vite fait, tu as une idée, toi?
Il lui dit, non. Nous ne voyons personne. Si, peut-être le jeune recourt-toi.
Il lui dit, c'est bien, il faudra qu'il fasse l'affaire.
Elle lui demande, pourquoi est-ce que tu parles comme ça? C'est ta fille tout de même. Et puis, tu aimes bien Cliff.
Il lui dit, oui. Elle
soupire et lui dit, bon, eh ben, nous allons préparer des fiançailles. Voir la famille, les invitations.
Il lui dit, stop, nous n'avons pas le temps. Les fiançailles doivent se faire rapidement. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas inviter à Paris les Recourtois, la mère et le fils, pour une soirée. Tu leur payes l'hôtel. Tu fais des invitations pour la soirée, les Framblants et tout. Et en plus, beaucoup de journalistes, photographes. Il faut qu'il soit là pour l'annonce des fiançailles. Comme ça, la mère de Christ n'osera pas refuser. Elle est tellement tordue. Elle aura honte de dire qu'elle n'était pas au courant. Invite le célèbre journaliste Pierre Mazzo-Roussillon. Ça fait bien. Et puis, il est de droite et travaille dans une radio de gauche. Comme ça, l'on fait deux paires de coups. En une seule fois. Il viendra peut-être avec Arlette.
Sa femme est toute retournée. Elle lui dit, nous ferions mieux si de prévenir la mère et le fils.
Il lui dit, nous n'avons pas le temps. Et puis, ils peuvent refuser.
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Caire. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.